Place. 10h-11h, bienvenue chez vous.
Obscurité, humidité, ce matin vous êtes bienvenue chez vous et dans un endroit pas commun. Jean-Brice, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Oui, le bunker comestible, champignonnière bio, installé comme son nom l'indique dans un ancien bunker strasbourgeois et qui emploie des maraîchers en situation de handicap à la culture du shiitake ou encore de pleurotes bio. Bonjour Anne-Gaëlle Bartos.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. On verra également que dans ce lieu atypique et au-delà de l'activité maraîchère, le bunker comestible, c'est bien plus que cela. Il sera question, Caroline, d'inclusion dans la transition écologique, mais pas seulement.
Eh bien parfait, aux alentours de 10h20, on court pour la forme, mais aussi pour la bonne cause.
Oui, 10h20, on parlera d'une course solidaire au centre de réadaptation de Mulhouse. C'est ce dimanche, 1 km parcouru, 1 euro reversé au restaurant, un truc en plus, on en parle dans 20 minutes.
Et puis, aux alentours de 10h40. On joue ensemble et qui dit jeu dit cadeau.
Oh oui, on va vous gâter avec un séjour inoubliable à l'étape 9 du côté de Kligenthal. Tous les détails à suivre dans quelques minutes et sur francebleu.fr Alsace.
Et en toute fin d'émission, Véro nous emmène au Mont-Saint-Odile, mais avant ça, direction les sous-sols de la champignonnière, le bunker comestible. Si vous connaissez cet endroit, venez nous en parler, 03 88 25 15 15. Vous êtes bienvenue chez vous.
France Bleu Alsace, bienvenue chez vous.
Vous êtes fan de champignons, les pleurotes, les shiitakes, et vous allez les chercher, pourquoi pas, au bunker comestible, en plein Strasbourg. Racontez-nous ça au 03 88 25 15 15. Jean-Brice, ce jeudi, vous nous emmenez dans un endroit vraiment pas banal.
Oui, alors moi, ça m'a complètement scotché. On est avec Anne-Gaëlle Bartos, directrice du bunker comestible. Merci en tout cas de venir à France Bleu Alsace, de sortir de ce bunker. Vous n'avez pas la tête de quelqu'un qui travaille dans un bunker?
Non, je travaille pas exactement au bunker physiquement, puisque je suis directrice de Cécité, Fédération des aveugles, qui se trouve au centre-ville à Strasbourg.
Bunker comestible, c'est bien plus que la culture du champignon, hein.
Oui, c'est un lieu qui est très atypique puisque c'est un bunker qui était exploité par les Prusses à l'époque en 1870 et où était stocké de la poudre à canon, et donc du coup on l'a transformé en lieu pour cultiver le champignon.
Pour le coup, j'ai fait une erreur, moi j'ai dit que c'était en sous-sol parce que pour moi un bunker c'est forcément
bah oui.
En sous-sol, mais il y a une butte en fait par-dessus.
Tout à fait.
Qui fait que on a l'impression qu'on est en sous-sol, puis c'est surtout que c'est complètement fermé, il y a pas de fenêtre, il y a pas de voilà.
Il n'y a rien,
pas d'entrée de lumière.
Voilà.
Donc voilà, mais ça reste un bunker, c'est
un lieu de travail
extraordinaire.
Absolument hors norme, très particulier.
Oui, c'est très particulier puisque c'est plongé dans le noir. Alors bien sûr, il y a de la lumière artificielle qu'on allume de temps en temps puisque le champignon a quand même besoin de lumière. Mais c'est un endroit qui est complètement adapté aux personnes en situation de handicap visuel puisqu'il fait sombre. Tous n'ont pas forcément besoin de lumière pour pouvoir se déplacer et travailler. Donc c'était une opportunité pour nous d'exploiter ce lieu avec nos personnes en situation de handicap.
Lieu riche d'histoire.
Pardon, ça fait combien de temps qu'il existe le bunker comestible?
Alors,
cette structure-là?
Tel qu'il est, ça fait quand même quelques années. Nous l'avons repris, nous, en 2021, puisque c'était une exploitation qui existait déjà et qui était exploitée par une autre personne.
D'accord, ok.
Comment ces maraîchers particuliers, qui, vous l'avez dit, sont des personnes atteintes de cécité visuelle ou de déficience visuelle, perçoivent cet environnement? Parce que déjà, nous, à la base, quand on se dit travailler dans le noir, travailler dans un bunker, eux, il y a des choses qu'ils doivent percevoir quand même sur l'atmosphère, sur ce lieu imprégné.
Oui, tout à fait. En fait, le lieu est quand même pas fait à peu près 250 mètres carrés, donc en termes de superficie, c'est assez petit, donc c'est très bien. Et pour les personnes qui sont déficientes visuelles, nous avons mis des marquages. Il est adapté en fait pour pouvoir se déplacer librement. Et comme il n'y a aucun objet dangereux pour pouvoir cultiver le champignon, c'était tout à fait adapté. Et en fait, ils font beaucoup au toucher. Donc, en fonction de la grandeur du champignon, ils savent s'il faut le cueillir ou pas.
Oui, donc là, tout est dans l'éveil des sens, la perception. C'est humide comme atmosphère, comme ambiance?
C'est humide, oui, tout à fait. Mais tout est adapté pour vraiment la culture du champignon, puisqu'il y a l'aération est naturelle, puisque à l'époque, il fallait cette aération naturelle, effectivement, pour la poudre qui était stockée. Il y a un sol en terre battue. L'endroit est très, très sain, en fait, puisque c'était vraiment adapté pour la poudrière et du coup, adapté pour les champignons. L'hygrométrie est tout à fait aux normes, très bonne pour pouvoir faire cette culture et on n'a pas besoin de rajouter grand chose en fait comme humidité.
Faut du froid ou faut du chaud là en termes de température?
Alors en fait il faut que la température ne varie pas trop et en fait le bunker il varie toujours, enfin la température varie toujours entre 12 et 16 degrés.
Ah oui quand même.
Bah, voilà. L'été c'est bien.
Faut être couvert quoi.
Ouais, l'été c'est bien.
L'été c'est bien,
mais génial.
Oui.
L'hiver c'est compliqué.
Mais la différence de température en été, je crois que c'est plus compliqué en fait, parce que quand il fait très chaud dehors et quand on rentre et qu'il fait que 15.
C'est limite une glacière en
voilà,
fait.
Voilà, c'est ça.
Petite question, juste pour qu'on se, voilà, on ferme les yeux, on rentre avec vous dans le bunker. À quoi ça ressemble physiquement, les murs, etc. C'est des couloirs, c'est des pièces.
Alors en fait, il y a un couloir et en fait c'est des briques qui datent de l'époque, hein, qui n'ont, enfin vraiment, c'est le lieu est très très sain.
Des briques un peu comme le métro, non? Des
Exactement.
Briques blanches comme ça.
Alors non, c'est des briques qui sont un peu beige comme ça.
Ouais.
Et ensuite, on arrive dans une grande, vraiment un grand espace où de côté il y a la culture des pleurotes. Donc c'est des bottes qui sont posées sur des grilles. Et au milieu de cette pièce, nous avons construit une sorte d'espace qui est fermé, où l'humidité est beaucoup plus importante et où poussent les shiitakes. Les shiitakes ont besoin d'une humidité plus importante. Donc, c'est enfermé dans un espace clos.
Je me demandais juste ça par rapport à, on imagine un bunker avec des galeries, avec voilà, avec des angles de partout. Donc là, pour le coup, on est plutôt sur un couloir et une grande pièce finalement.
Avec un plat, c'est voûté.
Ouais. Ok.
C'est très très beau comme endroit. Je vous invite à le visiter.
Bah ouais.
Combien de maraîchers, l'équipe compte combien de maraîchers pour cultiver ses pleurotes et ses shiitakes?
Alors en fait, ben c'est pas un travail à temps plein puisqu'il faut de la patience. Il y a à chaque fois 4 personnes qui se rendent au bunker durant la semaine, un jour sur deux, et ça peut tourner. C'est un travail qui est assez simple, mais qui plaît à nos personnes, et ça leur fait aussi du bien de sortir et de faire autre chose, puisque c'est pas leur travail du quotidien, normalement.
En tout cas, ça crée du lien social, ça crée de l'inclusion, de l'insertion pour ces personnes, ces maraîchers déficients visuels au bunker solidaire, j'allais dire, au bunker comestible à Strasbourg.
Mais oui, pourquoi pas solidaire
avec
aussi.
Anne-Gaëlle Bartos, directrice, justement, qui est avec nous ce matin.
Le bunker comestible, vous connaissez peut-être cet endroit. Eh ben, parlez-nous de cette découverte, de ces champignons. Et si ça vous intrigue, vous êtes les bienvenus aussi pour poser vos questions, 03 88 25 15 15.
France Bleu Alsace, bienvenue chez vous.
Les bonnes adresses, on va reprendre une animation normale et une voix normale. Les bonnes adresses sont tous les jours à l'honneur dans Bienvenue chez vous. Jean-Brice, ce matin, on est sur une culture bio au centre-ville de Strasbourg.
Oui, ça s'appelle le bunker comestible. On est avec Anne-Gaëlle Bartos, directrice du bunker comestible. Alors, Anne-Gaëlle, parlons champignons, parlons culture du champignon. Pour faire pousser des champignons, il faut
de l'obscurité.
De l'obscurité?
Tout à fait. De l'humidité.
Question pour un champignon.
Bravo.
Merci. Ah oui.
Oui, oui, oui.
Alors, humidité, obscurité.
Et une température moyenne vers entre 12, 14, 15 degrés, pas plus.
Bon, ça, c'est les conditions idéales. Niveau formation, ces maraîchers déficients visuels, vous le rappeliez tout à l'heure, ils ont dû suivre une formation, un accompagnement pour être vraiment spécialisés dans ce maraîchage.
Oui, alors en fait, ils ont été formés par l'ancien propriétaire du lieu et puis du coup par le personnel encadrant ensuite. Ils ont effectivement suivi cette formation qui est assez simple puisque en fait, ils ont appris à cueillir à la racine du champignon et ils ont appris à cueillir au bon moment, c'est-à-dire quand le champignon n'est pas trop gros ni trop petit, parce que quand il est trop gros après, il rend énormément d'eau.
D'accord. Oui, donc finalement, c'est assez autonome, la culture du champignon.
Tout à fait.
Ça se fait assez facilement. Ouais.
Alors, vous le disiez, ces shiitakes, ces pleurotes sont bio. Qu'est-ce qui détermine qu'un champignon est bio, Angèle?
Alors pour notre part, on achète les bottes toutes faites puisque la fabrication donc des bottes de mycélium, c'est un métier à part et nous ne sommes pas compétents donc sur le sujet. Donc nous les achetons près de Lyon à une personne qui en fait et donc du coup elle-même a cette certification bio et donc du coup nous pouvons également l'avoir. Donc on s'est fait certifier bio effectivement puisque on n'utilise aucun produit et que nos bottes sont bio.
Et ces bottes, elles poussent sur quoi concrètement? Elles reposent sur quoi?
Elles reposent sur une grille.
Ah. Donc c'est des bottes de quoi au départ? Un peu de la terre, c'est amalgamé?
Tout à fait, de la terre. Et donc du coup, ils la fabriquent comme ça et elles sont entourées d'un sac en plastique biodégradable.
D'accord, ah ouais, ok.
Voilà.
Et ça ne nécessite aucun traitement particulier?
Aucun
par la suite,
traitement.
C'est-à-dire que l'obscurité, l'humidité et les 10-12 degrés, ça suffit?
Ça suffit à pousser.
À faire
donc il y a
que...
des trous dans le sac et en fait les champignons poussent par là.
Ah. C'est vachement intelligent.
Quand même. Bah oui. Est-ce que c'est meilleur bio ou pas, vous qui les testez?
Bien sûr, surtout les nôtres.
Bon, bah il faut les tester. D'ailleurs, on pose la question, Caroline, aux auditeurs, aux auditrices.
Mais oui, seriez-vous prêt à acheter vos champignons dans un ancien bunker? Votre avis nous intéresse au 03 88 25 15 15. Le bunker comestible, c'est à Strasbourg, c'est l'enseigne à l'honneur ce matin, et on en parle ensemble sur France Bleu Alsace.
France Bleu Alsace, bienvenue chez vous.
Et on est jeudi matin, il est 10h23. On va s'échauffer pour une course solidaire qui a lieu ce dimanche. Jean-Brice, votre invité ce matin, c'est Gabriel Clem, président de Sport Organisation Solidarité Lutterbach.
L'objectif, Caroline, c'est 10 000 kilomètres pour doubler le montant de la cagnotte en faveur du resto. Un petit truc en plus. Gabriel Clem, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur France Bleu Alsace. Avant de parler de cette deuxième édition, quelques mots au sujet de ce restaurant tout à fait particulier, un petit truc en plus.
Ce petit restaurant, petit truc en plus, qui est né juste avant le Covid, c'est un restaurant solidaire et, je veux dire, qui permet à des personnes atteintes de trisomie 21 de pouvoir s'exprimer normalement, comme chaque citoyen, au travail.
Voilà, on parle d'inclusivité, de solidarité ce matin. On est vraiment
dans la thématique.
Dans la continuité. C'est la deuxième édition cette année. Vous attendez encore plus de participants que l'an dernier. L'objectif en cette année olympique, c'est plus vite, plus haut, plus fort ensemble.
Tout à fait. Mais je précise quand même, c'est familial, populaire et sportif. Je veux dire, on peut marcher, on peut venir. Il y avait 100 fauteuils roulants l'année dernière quand même.
Ah oui.
Et je veux dire, courir pour ceux qui le veulent. Le but, c'est surtout de faire un maximum de nombre de tours et pour atteindre 10 000 kilomètres en cette année olympique, effectivement.
Voilà, c'est beau.
Parce que c'est 1 kilomètre, 1 euro, c'est ça? Ou j'ai pas compris?
C'est ça.
Ah oui, c'est ça. Un kilomètre,
l'an dernier, on s'est fait avoir, on avait mis 2 euros par tour, et vu que c'est pas une piste de 400 mètres comme une piste d'athlétisme normale, parce que les normes ont dit sport, en fin de compte, on s'attendait à 200 personnes et autres, on a eu plus de 1400, et puis pratiquement 30 000 tours de parcouru, ce qui aurait fait 60 000 euros, ce que notre partenaire ne pouvait absolument pas trouver.
Et oui. Donc il faut rester raisonnable. Vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, c'est familial, c'est populaire, quel que soit notre niveau. Caroline, moi, par exemple, on peut venir.
Oui, tout à fait.
Il a dit qu'on pouvait marcher.
Il n'y a pas besoin de faire 10
000 kilomètres. Hein. Ouais. Il a dit qu'on pouvait marcher.
Bon,
donc
alors,
ça
si
veut
on
dire
peut marcher, si on peut le faire à son rythme, l'essentiel, c'est de participer, comme le disait Coubertin.
Oui.
Bon. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il faut acheter un dossard? Il y a un droit d'inscription le jour
Absolument
même? Comment
pas.
Ça se passe?
Absolument pas. C'est totalement gratuit pour le participant qui peut faire un don, certes. Mais si vous voulez, il peut remplir, on a envoyé des bulletins de pré-inscription, mais on s'inscrit sur place, on met son nom, son âge, hein, c'est important, et son mail, parce qu'il y a des trophées à gagner, plus jeune, plus âgé, groupe le plus nombreux ou association. Mm-hmm. Et à ce moment-là, on fait ses tours, et puis on note, on fait confiance aux participants, j'ai fait 10 tours, j'ai fait 5 tours, ou pas seul tour.
C'est du déclaratif alors?
Déclaratif, voilà.
Très bien, il n'y a pas de borne comme dans les grands marathons, les grandes épreuves où on est scanné au départ, à l'arrivée et à différents moments du parcours.
Non, ils ne sont pas scannés, ils peuvent prendre une mousse après avec une tarte flambée, mais scannage, non.
Bon, j'ai l'impression qu'on peut prendre une mousse et une tarte flambée pendant,
c'est possible.
Si je vous suis, Gabriel. Ah oui, parce que finalement, comme l'essentiel c'est de participer, si on veut faire une petite pause chez un restaurateur mulhousien, pourquoi pas?
Ben, si vous voulez, la tarte flambée, c'est aussi particulier cette année. Ce sont les personnes du petit truc en plus qui les feront.
Ah, ben ça c'est parfait, c'est vraiment circuit court. Tout le monde sera là, c'est le Solidaire Tour 2024, deuxième édition, ce dimanche 28 avril, de 9h à 17h. On s'inscrit sur place le jour même, ça se passe rue Albert Camus à Mulhouse, au centre de réadaptation. Merci beaucoup Gabriel.
De rien, c'est moi qui remercie. Et dès 8h30 d'ailleurs.
Ah bah voilà, on sera
8h30,
avec le café.
Tapante.
France Bleu Alsace. 10h-11h, bienvenue chez vous.
Jean-Brice Tandonnet, vous nous emmenez ce matin à deux pas de la place de Haguenau à Strasbourg. On est au Bunker Comestible.
Oui, 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 atmosphère particulière, un lieu singulier. On l'a dit, Angel Bartos, le Bunker Comestible, c'est aussi le siège d'une entreprise adaptée, un ESAT, c'est comme ça qu'on dit?
Oui, tout à fait.
Que signifie ce sigle précisément qu'on entend souvent d'ailleurs?
Alors, établissement et service d'accompagnement par le travail.
Voilà, et on y cultive des champignons, mais pas seulement. Il y a une entreprise au sein du Bunker Comestible qui s'appelle Repère Signalétique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, et c'est du très concret, hein, pour aider les personnes atteintes de déficience visuelle?
Oui, alors il est pas, ce service n'est pas exactement au Bunker, hein, il n'y a pas assez de place. Donc nous avons notre siège social qui se trouve 27 rue de la Première Armée à Strasbourg, et nous avons un service qui s'appelle Repère Signalétique et qui aide les ERP à se mettre en accessibilité ou handicap.
Donc ERP, établissement recevant du
public.
Voilà, c'est ça, on le dit, l'acronyme en tout cas ce matin. Donc rendre tous ces lieux publics accessibles aux personnes touchées par le handicap. On y conçoit quoi? Sur quoi on réfléchit précisément?
Alors en fait, on fait de la pose de nez de marche, contre-marche, bande podotactile au sol.
Alors attendez, là j'ai perdu Caroline. Un nez de marche.
Pardon, je ne sais pas.
Vous savez ce que c'est?
Alors les nez de marche, c'est des baguettes qui se posent à l'extrémité de la marche pour éviter que les gens donc dérapent déjà, et puis pour qu'ils sentent la marche. Les bandes podotactiles au sol.
Oui, autodérapant, enfin, non, antidérapant.
Et la bande podotactile au sol, c'est les bandes que vous voyez même au sol, à côté du tram, où vous avez des sortes de petites...
Ah, des petits picots au sol.
Exactement,
ah,
des petits
picots
au sol qui
attention.
Se sentent.
Ah, si. Bah, quand on marche dessus,
blanche.
C'est assez. Enfin, voilà, on se rend bien compte qu'effectivement, oui, on le sent sur
les semelles. Vous parlez des petits.
Les petits picots qui sont au sol, voilà, qui sont
irréguliers. Lisa, vous voyez, vous, ce que c'est, les bandes podotactiles?
Alors oui, je pense, parce que je prends beaucoup le tram et le train, donc ça me dit quelque chose.
Ouais. Bah voilà.
Bon ben voilà, c'est repéré.
Avec le vélo, vous faites...
On sait maintenant que ça s'appelle une bande podotactile.
C'est ça.
Voilà, c'est le mot du jour. Podotactile. On va lancer le défi cet après-midi à Isabelle Chalaï ou à Thierry Callot de caler le mot podotactile dans une intervention. Ça peut être pas mal. Donc vraiment, réflexion sur rendre ces lieux le plus accessible possible. Aujourd'hui, en termes de résultats, en termes d'avancées, on en est où?
Alors pour l'instant, il y a encore beaucoup à faire, hein, puisque on a encore beaucoup effectivement en France à faire, puisque la loi prévoyait que les établissements soient accessibles, et c'est vraiment pas encore le cas.
Quelque chose d'emblématique aussi quand vous arrivez à la gare de Strasbourg, le rouge piéton.
Bah oui.
Piéton.
Bah oui.
Vous l'avez celui-là.
Bien entendu.
Celui-là, tout le monde le connaît, ouais. et c'est vrai qu'il est très très marquant. Vous avez également conçu une cuisine adaptée. On va voir ça dans un instant avec vous. Une cuisine intégralement pensée pour les personnes déficientes visuelles. Une belle innovation. On en parle avec vous. Et si vous avez des questions à poser à notre invité à ce sujet-là également, vous nous appelez au standard de France Bleu Alsace.
Eh ben oui, si les champignons ça vous intrigue ou ça vous inspire, vous êtes les bienvenus chez vous. 03 88 25 15.
France Bleu Alsace, bienvenue chez vous.
Le Bunker Comestible, c'est à Strasbourg, c'est des pleurotes et des shiitakes bio. On est en mode champignon avec vous ce matin, des recettes, des questions, on prend. 03 88 25 15 15, vous êtes bienvenue chez vous. Jean-Brice, non seulement c'est du bon, mais c'est aussi un commerce inclusif.
Exactement, et Anne-Gaëlle Bartos, directrice du Bunker Comestible, est avec nous ce matin. Alors on le disait, une cuisine adaptée au Bunker Comestible à Strasbourg. Comment est née d'abord cette idée de cuisine connectée et adaptée?
Alors, cette cuisine adaptée et connectée est née d'une idée que nous avons eue de pouvoir rendre ce service auprès de nos membres, c'est-à-dire de réapprendre les gestes du quotidien. Parce que quand on perd la vue, c'est pas évident de se faire cuire un steak, par exemple, de pas se brûler. Et donc, du coup, réapprendre les petits gestes du quotidien, c'est vraiment très très important en termes d'autonomie. Donc, nous avons pensé cette cuisine en partenariat avec Cuisine Schmidt. Donc, il y a des contraste de couleurs. Il y a tout l'électroménager qui est commandé avec Google Home et Alexa. Quand on ouvre le four, il y a une butée, donc ça évite. Donc il a hauteur d'homme le four et on peut le. Il est complètement rétractable, donc ça évite de se cogner dedans. Il y a également une butée quand on tire la grille du four. Donc il y a des. Il y a des ateliers cuisine qui existent auprès de nos membres, qui existent dans cette cuisine, pour que, ben, d'une part, ils passent un moment convivial, mais également qu'ils réapprennent les gestes du quotidien pour ceux qui en ont besoin. Donc, juste pour information, cette cuisine se trouve rue de la Première Armée,
et pas dans le bunker. Évidemment, voilà, mais le bunker, c'est l'ensemble, ouais. En fait.
C'est Cité Fédération des Aveugles, c'est l'ensemble qui a une de ses activités, qui est le bunker comestible, puisque nous avons énormément d'activités. Nous avons quasiment 90 salariés qui travaillent chez nous, avec beaucoup plus de la moitié qui sont en situation de handicap. Et le bunker est une toute petite partie de notre activité.
D'accord.
Voilà. Et nous fêtons nos 115 ans hier.
Bon anniversaire, voilà. Vous ne les faites pas. Alors, donc 2024, c'est une année clé pour vous. Cette cuisine connectée, je voudrais qu'on s'y arrête deux secondes. Vous le disiez, avec des assistants vocaux. Donc, on peut démarrer aujourd'hui son four rien qu'à la voix.
Tout à fait.
On lui dit quoi?
On lui dit, bah,
Alexa, allume le four.
Voilà,
Alexa.
Attention, Caroline, vous avez déclenché tous les fours de la région, là.
Oui, c'est
qui nous écoute.
Non, généralement, ils ont une reconnaissance vocale, non, quand même.
Tu sais, moi, c'est ça.
Non, ça marche assez bien.
Là, Caroline, vous avez déclenché 250 fours, là. On vient de nous appeler.
Bah, désolé.
Arrêtez tout.
Alexa, arrête le four.
Voilà, comme ça, on est bon. Bien.
Donc, voilà. On commande la température, on commande l'allumage, oui.
L'intelligence artificielle, cette technologie, elle va vraiment bénéficier à ces personnes.
Oui, tout à fait.
C'est vraiment
tout à fait. En termes d'autonomie, c'est vraiment très important. Une personne qui perd la vue perd également en autonomie, et nous, on essaye vraiment de les accompagner vers l'autonomie et de les refaire prendre confiance en soi.
Ça sert de laboratoire un petit peu. Est-ce que le modèle est adaptable chez monsieur et tout le monde? Est-ce qu'on peut aujourd'hui en bénéficier?
Alors, le modèle est effectivement adaptable. Par contre, c'est très très onéreux, puisque le matériel, l'électroménager est très cher.
Ouais.
Donc, effectivement, là, c'est plus de la prise de confiance en soi quand ils sont chez nous, pour pouvoir le refaire, mais...
Il y a des aides encore, pas suffisamment, pour s'équiper?
Alors, pour ce genre de matériel, non.
Bon, bah pour l'instant, et c'est quelque chose à travailler, en tout cas, c'est un sujet qui est au cœur de vos préoccupations. Anne-Gaëlle Bartos avec nous ce matin sur France Bleu Alsace.
Directrice Cécité Fédération des Aveugles, et ce matin particulièrement, on s'intéresse à l'une de vos activités, le bunker comestible et sa champignonnière.
France Bleu Alsace, bienvenue chez vous.
Et on termine la visite guidée du bunker comestible avec vous ce matin, Jean-Brice.
Et oui, le bunker comestible, on le disait, avec Anne-Gaëlle Bartos, c'est bien plus que de la culture de champignons, finalement.
C'est une des activités de Cécité Fédération des Aveugles.
On l'a vu avec la cuisine connectée à l'instant. Alors, on parlait de financement pour se faire aider. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de dispositif qui pourrait se généraliser pour les personnes déficientes visuelles, pour avoir ce type de matériel d'installation à la maison.
Alors, à la maison, non, effectivement, pas ce type de matériel commandé par Google Home ou Alexa. Mais sinon, il y a effectivement des dispositifs qui existent pour les aider au quotidien, hein, des dispositifs au niveau financier qui sont donnés par l'État, mais pas pour ce type spécifiquement.
Pas encore, et vous militez pour ça, justement, pour qu'il y ait davantage de généralisation, d'aide, d'accompagnement, en tout cas.
Alors nous, on est une association militante, effectivement, on défend la cause des personnes en situation de handicap. La Fédération des Aveugles est une association qui a une particularité, puisque c'est pour et par les personnes en situation de handicap. Le conseil d'administration est à trois quarts malvoyants ou non-voyants, et c'est très important qu'ils portent leur parole, et que ce soit pas forcément des personnes valides qui portent la parole du handicap visuel. Donc c'est une spécificité qu'on souhaite garder, et qui est très 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 importante.
Combien de personnes en Alsace aujourd'hui? Vous avez des chiffres? Non, pas du tout.
Elle nous fait des gros yeux parce que...
Il y a de plus en plus de personnes, en tout cas, qui seront touchées, même à l'avenir, par le handicap visuel, avec le vieillissement de la population et avec le fait qu'on utilise les néons, le soleil, les smartphones aussi, hein, qui fait qu'on a nos yeux qui sont de plus en plus collés et qu'on regarde de moins en moins de loin. C'est aussi une des raisons pour lesquelles la vue baisse dans la population.
Oui, parce que c'est vrai qu'on a, tendance à se dire que le handicap lié à la vue est forcément l'handicapé aveugle. Oui. Pour le coup, il y a aussi des déficients visuels et il y a plein de pathologies différentes, en fait.
Exactement. Il y a énormément de pathologies différentes qui sont des fois génétiques aussi ou liées à une maladie. Mais il y a beaucoup de pathologies différentes et la malvoyance est très, très présente hein, au sein de la population.
En tout cas, merci d'être venu nous présenter à la fois le Bunker, l'association, cet ESAT qui œuvre et qui réussit, en tout cas jusqu'ici. On va vous souhaiter longue vie, en tous les cas, pour aider les personnes déficientes visuelles. Ce Bunker qui cultive donc des champignons transformés en champignonnaires. Moi, je suis fasciné. Ça se visite. Est-ce qu'on peut, comme ça, lors de journées peut-être particulières?
Oui, alors de temps en temps, alors là ça fait longtemps, mais on organise des portes ouvertes. Et sinon, des fois, il y a des personnes, des particuliers qui nous appellent ou des professionnels pour le visiter. On est tout à fait ouvert à le faire visiter.
Peut-être pour les prochaines journées du patrimoine.
Par exemple.
Par exemple, très bien. Fait. Merci mille fois d'être
venu. Merci à vous. Merci pour votre accueil.
Petite question juste pratique pour le coup. Les champignons en question, les shiitake, les pleurotes, on peut aller les chercher sur place ou on les retrouve dans d'autres commerces, du coup, sur Strasbourg?
Alors, on les vend beaucoup à des professionnels, hein, puisqu'on livre des restaurants ou des hôtels. De façon très épisodique, on les vend aux particuliers, mais c'est assez rare.
C'est événementiel.
Voilà, donc tout à fait.
Quand vous avez l'info, vous nous le passez sur France Bleu Alsace.
Très bien.
On passera l'info.
Il faut les goûter, ces champignons.
Merci à vous, Anne-Gaëlle.
Merci beaucoup.
À très vite sur France Bleu Alsace. Rendez-vous au Bunker Comestible pour vos prochains champis. C'est au 8 rue du Rempart à Strasbourg.